Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDVOI. On espère vous trouver agréablement installé pour nous écouter bavarder aujourd'hui sur les ondes.
En forme en ce dimanche matin.
Donc aujourd'hui, c'est le 48e épisode de l'Étoile Polaire et nous sommes tous les quatre, toute l'équipe de l'émission avec Axel, Rémi, Pierrick et Fred qui vous parlent.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Hello. Alors, le sommaire de cette émission, on va commencer par le ciel ce soir. Ensuite, ce sera quelques actus, en particulier une petite supernova qui apparemment est visible en ce moment. Ensuite, je vous parlerai de un peu l'événement qu'on organise cet été. Marignac fête les étoiles, qui, comme son nom l'indique, va se passer à Marignac le samedi 15 juillet. Donc on va vous raconter un petit peu ce qui se passera ce jour-là. Ensuite, Axel, tu vas nous parler d'une étrange chose qui se nomme le moment Pluton.
Ouais. Pluton Time.
Ouais, le Pluto Time.
Pluto Time. Donc là, tu vas développer ça tout à l'heure. Ensuite, après la pause musicale, ce sera la chronique spatiale de Pierrick, qui va continuer sur sa lancée d'archéo-astronomie et qui, cette fois, va nous parler de l'Amérique du Nord.
Ouais, les Indiens d'Amérique du Nord. Et voilà.
Et pour finir, Rémi, qui suite à ses pérégrinations, maintenant fait des travaux pratiques. Mmh. Et il va nous parler de l'observation du ciel aux jumelles.
Voilà, faudra mettre en application ce savoir et cette envie.
Toutes les bonnes leçons et toutes les bonnes envies. Alors voilà, c'est parti. Alors le ciel ce soir. On était un petit peu embêtés. Bon, vraiment, en ce moment, c'est pas vraiment très joyeux à l'heure où on enregistre cette émission. On a un ciel qui est quand même extrêmement voilé depuis bien trois semaines maintenant.
Oui, c'est ça. Tout très orageux.
Ouais. Un petit mois. Donc, ouais.
Tout le mois de mai a été très couvert, donc complètement.
Donc peu propice à l'observation du ciel. Quand même, moi, en gros, ça s'est résumé à voir Vénus.
Oui.
Là, quand même, à travers les nuages, quand même, Vénus, ce phare donc, du soir hein, à l'ouest. Et puis, des petites percées sur le Lion, quand même, qui était bien au zénith en début de soirée quand même, parfois, pouvait se laisser apercevoir.
Oui. J'ai eu aussi quelques observations le soir. Des fois, il y a des orages un peu tôt dans la soirée et vers minuit, une heure, ça se dégage. Et j'ai fait quelques observations visuelles, hein, sans matériel, qui sont... Tu sors et d'un coup, le ciel est hyper beau, très fluide, très clair. Et c'est quand même...
On reste encore, on est en train de basculer sur le ciel d'été, parce que du coup, en deuxième partie de nuit, c'est ça qui apparaît, avec Hercule.
La Voie lactée qui se lève à partir d'une heure du matin, quelque chose comme ça, on commence à la voir à l'est.
Et après les pluies, c'est comme si le ciel était lavé, il y a un côté pur. Un peu qui apparaît, je trouve.
Et puis le triangle d'été qui apparaît dans la nuit.
Le triangle d'été.
Oui, les trois fameuses étoiles, Vega, Deneb et Altaïr.
Vega, Deneb et Altaïr. Donc là, on peut en dire deux mots, puisque c'est leur grande saison qui commence. Que tout l'été, en fait, ce qu'on appelle le triangle d'été, ce n'est pas une constellation à part entière. C'est trois étoiles qui appartiennent elles-mêmes à trois constellations différentes. Donc on a Deneb qui fait partie du Cygne. On a Vega qui fait partie de la Lyre et Altaïr qui fait partie de l'Aigle. On appelle ça le triangle d'été parce que ce sont trois étoiles très brillantes qui sont relativement rapprochées dans le ciel, qui forment un grand triangle. Enfin, rapprochées, on s'entend. Bon, regardez une carte du ciel, vous verrez qu'à l'échelle.
Ouais, mais ils sautent aux yeux en tout cas, ce triangle.
Ce triangle, et c'est un énorme repère évidemment pour les observateurs du ciel d'été. Donc voilà pour ce que vous pouvez voir. Après,
moi, pour les lève-tôt ou les couches très tard comme moi, à 5h du matin, j'ai pu observer vendredi, suite à une nuit claire, la seule de ce mois de mai qui vient de passer, j'ai pu observer Saturne un peu avant le lever du soleil à 5h du matin. Et j'étais ému de revoir Saturne.
Saturne, on peut la voir.
Qui nous avait quitté pendant quelques mois. Et voilà, alors j'avais pas un gros instrument parce que j'étais pas là pour ça, mais j'ai quand même bien vu ces anneaux, l'image était assez belle. Et ces anneaux qui sont d'ailleurs en train de se refermer l'année prochaine, on les verra complètement par la tranche et donc plus du tout ou presque depuis chez nous. Mais non, ils sont très fins déjà.
Elle a sa propre rotation et notre point de vue change.
Oui, c'est ça, c'est des questions de perspective avec son orbite et la nôtre. On la voit un peu par au-dessus, par en dessous ou bien de face. Et à ce moment-là, les anneaux nous sont invisibles. Quand ça, c'est pour 2024, mais on en reparlera. Mais en tout cas, là, voilà, les anneaux sont très fins. Alors que l'année dernière et encore l'année d'avant, on les voyait vraiment bien dans toute leur largeur.
On en a bien profité l'année dernière. Oui. Il y a eu toute une période où on pouvait voir Mars, Jupiter, Saturne là, à l'automne. C'était assez agréable.
Ouais, puis il y avait un bel alignement fin juin.
Ouais.
Fin juin avec les quatre planètes majeures. Là.
Ouais. Donc là, en termes de planètes, en ce moment, comme tu l'as dit, effectivement, on peut observer Saturne.
Voilà. J'ai vu Jupiter se lever un peu après, mais je ne l'ai pas observé.
Jupiter qui réapparaît en fin de nuit, presque à l'aube, en fait. Ouais. Voilà. Donc comme on l'a dit, Vénus, qui n'est pas réellement... Enfin, à l'œil nu, c'est effectivement une observation à faire, qui a une grande présence dans le ciel nocturne, mais on ne pointe jamais en réalité un télescope sur Vénus, puisque son atmosphère étant très dense, on n'arrive pas à observer sa surface, donc on a juste de la lumière qui diffuse.
Et on voit aucun détail.
Il n'y a pas d'image à réellement résoudre, quoi.
Au mieux, on verra si on l'observe régulièrement, des croissants, des quartiers, des phases comme ça, comme la Lune.
C'est une planète intérieure, donc...
Mais c'est avec rien de...
Donc de notable. Elle présente des phases, mais effectivement, ce n'est pas extrêmement passionnant à observer. Et puis Mars, qui est très basse de toute façon et qui...
Qui commence à être très loin.
Qui est loin, donc on a déjà parlé à la dernière émission, c'est plus du tout le moment pour observer Mars.
Mars qui se rapproche de Vénus, quand même, si on veut la reconnaître dans le ciel. Et... vachement plus proche.
Elle est sympa à l'œil nu aussi, de se dire que c'est encore Mars qui brillait tellement il y a quelques mois et qui maintenant ça s'affaiblit.
Ça bouge.
Mais c'est vrai qu'aux instruments, non, ça vaut plus le coup.
Donc voilà un peu pour ce petit tour de ce que vous pouvez voir en ce moment. Et puis on va passer à la suite avec quelques actus du monde de l'astronomie. Alors, il y avait une supernova là, qui était en jeu apparemment.
Ouais, effectivement, il y a une supernova qui est apparue dans la galaxie du Moulinet, donc dans M101.
La galaxie du Moulinet.
On va quand même rappeler brièvement ce que c'est qu'une supernova.
Bien sûr.
Donc une supernova, déjà ça se manifeste comment, Rémi?
Disons que c'est quand on observe une galaxie lointaine, donc il faut imaginer que M101 elle est à 22 millions d'années-lumière. Donc, c'est une
petite tache floue dans le télescope.
Voilà, on va dire ça. Puis en photo, ça se résout un petit peu mieux. Mais voilà, il y a des taches brillantes qui représentent des étoiles majeures dans la galaxie. Et puis là, il y a vraiment une étoile qui est apparue.
Comme une grosse étoile, et même plus brillante que
d'un coup, une énorme étoile, un astre extrêmement brillant qui apparaît d'un coup, là où il n'y avait rien.
C'est-à-dire que quand on voit les images qui sont ressorties de cette découverte-là, on a l'impression que cette étoile-là, elle est carrément dans notre galaxie. C'est-à-dire qu'elle fait partie du premier plan, quoi. Tellement elle est brillante.
Ouais, c'est ça.
On rappelle que toutes les étoiles qu'on observe à l'œil nu, font partie de notre galaxie. Oui. Si on veut aller plus loin, il faut observer d'autres galaxies.
Tout à fait, ouais. Du coup, c'est assez récent, c'est une étoile qui a été découverte après une explosion en supernova au 19 mai, la dernière, par un astronome japonais qui s'appelle Kyoki Itakaki, un astronome de 75 ans qui a passé sa vie
un amateur qui
observé, ouais.
Il y a quand même souvent des choses qui sortent pour les amateurs. Hein.
C'est belle récompense
pour les séances supernova, c'est souvent des amateurs.
Tout à fait. Alors après, il avait quand même accès au Liverpool Télescope à La Palma, là, aux Canaries, un télescope de 2 mètres de diamètre. Ouais. Quand même.
Amateur éclairé.
Voir des choses. Ouais. Après, effectivement, la découverte était tellement majeure que ça se trouve d'autres amateurs avec des instruments plus modestes auraient pu le voir. Faut simplement comparer les différences, quoi. Après, c'est assez régulier de découvrir des étoiles, des morts d'étoiles en nova dans des galaxies voisines, mais en supernova, ça reste un petit peu plus rare, quoi.
Parce qu'on n'avait pas terminé, mais justement d'expliquer ce qu'était une supernova. Et effectivement, il s'agit de la mort d'une étoile. Donc de la mort d'une étoile massive, même très massive, une très grosse étoile, beaucoup plus grosse que le Soleil.
Au moins 8 fois plus massive que le Soleil.
Qui en fin de vie, en fait, va exploser littéralement. Et en fait, on peut faire une petite transition. Les supernovas, c'est quand même intéressant, même à un niveau aussi de physique. Parce que c'est un moment en fait de la vie des étoiles où tous les éléments plus lourds que le fer en fait sont créés. Donc tous les éléments chimiques, y compris ceux qui font partie de notre planète et de notre quotidien, qui nous entoure, sont issus en fait dans leur création de cette formation d'éléments chimiques au moment des supernovas. Donc en fait, ça contribue quand même de façon extrêmement capitale à la chimie de l'univers. Quoi.
C'est l'histoire un peu de notre vie, du vivant aussi, quelque part.
Et elles font cette explosion extrêmement violente. C'est-à-dire qu'on est encore, on parle d'astronomie, et là, sur une supernova, on va parler de quelques jours, dizaines de jours, sur le temps du phénomène. Donc c'est un battement de cils à l'échelle astronomique.
C'est une pure création, quoi.
Et là, d'un coup, toute cette matière est expulsée dans le milieu interstellaire environnant. Donc enrichissant le gaz de ce même milieu interstellaire qui ensuite va dans les générations d'étoiles suivantes inclure ces éléments chimiques nouveaux qui ont été synthétisés et donc complexifier la chimie des systèmes, y compris des systèmes planétaires qui vont potentiellement se développer autour de la nouvelle étoile.
Redistribuer les cartes. Comme on dit.
Voilà, fin de la parenthèse.
Ce qui est important, c'est de se dire que cette explosion, elle a eu lieu il y a 22 millions d'années.
C'est ce que j'allais dire.
On la voit aujourd'hui. Voilà, et petit aparté, du coup, son petit nom, c'est SN2023IXF.
Ok, ça
ultra sexy.
C'est pas les initiales du découvreur ?
Pas tout à fait.
I,
non ? C'est KI.
Ah, c'est KI, pardon.
Allons savoir.
Alors voilà pour cette supernova. Il y avait une autre actu, il me semble, qui avait été...
J'ai vu quelques points qui m'ont interpellé récemment, mais que je n'ai pas creusé, donc j'en parlerai une prochaine fois. Notamment une histoire de découverte de scan d'exo-atmosphère par le James Webb, mais voilà, j'en parlerai une prochaine fois.
Ça marche. À ce moment-là, on va passer donc, à la suite, et on va vous parler donc, de Marignac Fête les Étoiles, cet événement que donc, on organise, nous, l'émission L'Étoile Polaire et toute l'équipe. Qu'on a déjà organisé l'année dernière, donc il y a peut-être certains de vous qui nous écoutez, qui êtes venus voir cet événement et participer, observer au télescope, écouter les conférences et suivre les différents ateliers, voir les expos de photos, voilà, écouter la musique, tout ce qu'on a proposé l'année dernière. Donc là, cette année, on va poursuivre dans la même lignée. Mais en essayant aussi de proposer des choses un petit peu différentes, un peu nouvelles, pour que ce ne soit pas tout le temps pareil et qu'on ne s'ennuie pas. Alors, on va rester sur ce principe un peu, nous on est une asso, donc on reste sur ce principe associatif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire partager l'astronomie. C'est quand même ça ce qui nous motive quand on fait aussi cette émission et quand on anime des événements dans le DIWA. Donc ce sera le 15 juillet. Ça, c'est une date qui est quand même, voilà.
Ça, c'est donné.
À donner, le samedi 15 juillet. Et on va ouvrir les portes à 14h, donc sur le site de la base de loisirs de Marignac. Toute l'après-midi, en fait, il y aura des ateliers enfants et à caractère scientifique et artistique. Et ces enfants vont préparer aussi un spectacle qui sera, lui, présenté à 21h. Et l'après-midi, donc au-delà de ça, il y aura aussi l'observation du soleil qui sera possible.
Expo.
Et l'expo, une exposition de photos d'astronomie que Rémi va présenter, peut-être Axel, qui avait une partie du travail déjà été présentée l'année dernière. Et on va poursuivre là-dessus.
Ouais.
Et puis ensuite, alors après, à partir de 18h, il y aura des conférences. Alors, les ateliers enfants vont être assez fournis et il y a toute une offre. C'est pas juste un petit truc sur le côté. Donc, les conférences, il y aura encore. En fait, les enfants vont être assez occupés, a priori, toute cet après-midi-là. Et à partir de 18h, on attaquera des conférences donc sur le thème de l'astronomie. Alors. Moi, je commencerai par en faire une sur l'univers à grande échelle ou un peu faire ce concept qu'on aime bien à l'étoile polaire, qui est la géographie étendue, voir un peu ce qu'il y a autour de nous. Ensuite, Axel, toi, tu nous parleras de précieuses images.
Je commenterai et surtout je montrerai des images qui m'ont touché et qui, je pense, sont importantes, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, pour nous en tant qu'humanité.
En tant qu'humain.
Oui, c'est ça.
Et ce sera suivi par une séance de questions-réponses, donc qui seront radio-diffusées en fait sur RDWA.
Un échange entre nous et le public.
Et le public, donc
et sur vous les auditeurs.
Et vous les auditeurs, voilà, si vous êtes là, si vous venez nous rencontrer, donc l'occasion de répondre à des questions précises d'astronomie ou d'autres. Enfin voilà, d'échanger en tout cas entre vous et nous. Et puis, donc à 21h, ce sera le spectacle dont on a déjà parlé, issu des ateliers qui auront eu lieu toute l'après-midi. Et puis le soir, à partir de 22h30, là, on attaquera réellement la partie astronomie. Alors donc avec un tour du ciel, où on vous montrera les constellations. Et ce sera suivi évidemment par l'observation aux instruments, au sens large. Donc là, on a quand même un petit panel à vous proposer. On vous invite vraiment à amener vos jumelles. Parce qu'on a envie ensemble de faire un tour du ciel aux jumelles. Y a plein de choses à voir en fait. Et c'est une belle façon de découvrir le ciel. D'ailleurs Rémi, tu vas nous en parler un peu plus ce soir, aujourd'hui. L'habitude. Et donc on aura les jumelles, on vous invite à les amener, je répète, voilà. Ensuite, il y aura les télescopes qu'on proposera et qui seront tenus par différents astronomes amateurs du DIY et même d'ailleurs un petit peu. Et puis le visuel assisté. Et là, c'est toi Rémi qui prend en charge cette partie-là, si tu veux nous en dire deux mots, parce que c'est quand même un des aspects assez importants de l'événement.
Bah, moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Après, c'est un truc qu'on va faire toi et moi. Donc,
on va faire tous ensemble.
En partenariat, c'est un truc qu'on a expérimenté. C'est un atelier qu'on a expérimenté l'année dernière, qui me tenait à cœur pour pouvoir rendre accessible aux personnes. À la fois à mobilité réduite, à la fois en malvoyant, des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de mettre l'œil à l'oculaire ou
facile d'arriver à avoir une image derrière le télescope, on ne sait pas trop où regarder, c'est pas forcément pour...
Sur certains, il faut se baisser.
Voilà, suivant ce qu'on observe, il faut se torturer.
Pas toujours très confortable. Voilà.
Et donc du coup, c'était très intéressant l'année dernière.
Pour des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Voilà.
D'expérimenter cet atelier, c'est-à-dire qu'il y avait un télescope qui pointait un objet dans le ciel et par le biais d'une caméra astronomique, d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur, on arrivait à retranscrire en direct la cible sur un écran, donc du coup qui était offert à, je sais pas, il y avait au moins 50 personnes à chaque fois derrière l'écran, quoi. C'était
au lieu d'avoir un seul œil derrière l'oculaire, grâce à tout ce système d'optique et électronique. Ouais. Vous arrivez à projeter l'image du télescope sur un écran. Donc, vous pouvez montrer à tout un tas de personnes qui n'arrivent pas à mettre l'œil derrière l'oculaire.
C'est ça, ouais. C'est intéressant pour ça. Et puis, ça nous donnait aussi accès à des objets auxquels on n'avait pas accès à l'œil nu, par le biais de certains filtres.
Ou d'avoir des couleurs.
Voilà,
d'avoir des couleurs. Objets,
tout à fait,
On reste sur ce principe d'accumulation quand même de lumière plus longue que ce que l'œil peut faire et donc de possibilité d'accéder à des détails qui ne sont pas sensibles à l'œil.
Un niveau de sensibilité qui va au-delà de notre capacité visuelle.
Voilà, donc ça, ce sera tout du long. Dès que la nuit tombera, une fois que le tour du ciel sera passé, Rémi mettra ça en place. Donc effectivement, je serai là aussi, mais on sera tous là.
Voilà, l'objectif, c'est d'aller au-delà un petit peu de l'an passé et de mettre en place cette interaction avec le public en amont pour pouvoir déjà se préparer aux observations et
comprendre un peu ce qu'on observe. Alors on n'oublie pas non plus, on en est conscient aussi qu'il y a certains d'entre vous qui, ça fait quand même quelques temps qu'on organise des petites soirées dans le DIY, il y a peut-être des gens qui sont déjà venus et on n'a pas envie que ce soit toujours pareil. Donc on y pense, on pense aussi aux gens qui ne partent pas de zéro en astronomie. Qui ont un bagage, qui s'y intéressent, qui savent déjà des choses et qui ont envie d'en apprendre plus et qui sont toujours un peu frustrés dans les soirées grand public parce qu'on leur répète des choses qu'ils savent déjà. Alors on essaye de faire un peu que tout le monde puisse trouver un peu de quoi se nourrir. En tout cas, c'est notre esprit pour organiser cet événement. Et voilà, et tout ça, évidemment, sur l'observation, enfin non, pas évidemment, mais pour ceux qui sont déjà venus, cette observation, elle se fait en musique. On vous rappelle, il y a de la musique électronique ambiante qui nous accompagne tout du long des observations. Donc ça, jusqu'à, il y a eu Vite Chien Rouge, c'est Anthony et d'autres musiciens qui, qui sont là, qui sont fidèles et qui continuent à venir.
Merci à eux. Ouais.
Merci à eux, ouais. Qui continuent à venir participer vraiment, à ces événements et à vous proposer leur musique pour accompagner vos observations. Voilà en gros ce qu'on peut dire.
Parce que je rappelle aussi que c'est à prix libre et que du coup on fait ça vraiment pour le plaisir, pour vous faire découvrir.
Associatif.
Donc
entrée à prix libre, atelier au chapeau.
Il y a à manger, il y a des très bons cuisines.
Il y aura de la restauration, il y aura de la buvette.
Voilà. Il y aura du goûter.
Il y aura du goûter. Donc,
il y aura pour tous les sens au final.
Il y aura du parking. Il y aura la possibilité que ça se passe bien. Voilà, on voulait vous présenter cet événement. Cette émission est diffusée pendant le mois de juin. Donc, il y en aura probablement une prochaine avant le 15 juillet. Donc, on redit la date, Marignac, base de loisirs, le 15 juillet à partir de 14h et jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que les gens s'en aillent.
Jusqu'à ce qu'on tombe.
Jusqu'à ce que soleil.
On espère vous y rencontrer. En tout cas, on va essayer d'organiser une belle journée autour de l'astronomie et de faire partager le plaisir que c'est d'observer le ciel, un plaisir qui est simple et qui est accessible à tous et à toutes. On va continuer cette émission avec Axel et ce fameux, non pas fameux, au contraire, cet obscur,
moment de Pluton. C'est la traduction que j'ai tentée, puisque en anglais c'est le Pluto Time. Je suis tombé là-dessus par hasard sur internet et ça m'a donné envie de parler de ça et du coup de parler de Pluton, et donc c'est ce que je m'apprête à faire. Alors qu'est-ce que c'est ce Pluto Time? Fred, je t'en ai parlé vite fait l'autre fois, mais les autres vous allez découvrir avec moi, enfin avec nos auditeurs. Le Pluto Time, c'est un concept de la NASA qui s'est dit, tout le monde le sait, Pluton c'est loin du Soleil. Et donc, ça reçoit moins de lumière du Soleil que nous. Et nous-mêmes, on en reçoit moins que Vénus, qui en reçoit moins que Mercure. Voilà. Et donc, ils se sont dit, il y a un moment sur Pluton où l'ensoleillement est au maximum, on pourrait dire le midi de Pluton, où on serait là et si on était sur Pluton, on regarderait autour de nous, on aurait une certaine luminosité. Et en fait, il y a un petit algorithme sur Internet, si on tape Pluto Time, on peut rentrer où on est, on dit qu'on est en France, et ça nous dit, si vous sortez à telle heure de la journée, et que vous regardez autour de vous, avec un ciel dégagé, vous aurez la même luminosité qu'au maximum de luminosité sur Pluton. Et donc en ce moment, pour ce mois de juin, avec un ciel dégagé, que j'espère qu'on aura, il faut sortir vers 21h20, 21h30, quand on sera à la fin du mois de juin. Vous sortez à ce moment-là, vous regardez autour de vous, et vous dites ça, c'est le maximum de lumière sur Pluton.
Mais c'est loin du Soleil, Pluton, hein. Tout au bout du système solaire.
Ça reçoit 6000 fois moins de lumière que sur Terre, quand on mesure en luxe.
Déclassé, au-delà de Neptune.
Voilà, alors du coup, ça m'a donné envie de parler de Pluton. Je vais reprendre un peu quelques bases, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on va aussi pousser un peu plus loin. Alors Pluton, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une petite planète, on peut commencer comme ça. On l'appelle maintenant d'ailleurs une planète naine, j'y reviendrai peut-être.
À peine sphérique.
Mais quand même une petite sphère qui fait quelques 2300 km de diamètre, ce qui fait les deux tiers de la Lune.
Plus petit que la Lune.
C'est un tout petit peu plus petit que la Lune.
Et qui orbite autour du Soleil à peu près 40 fois plus loin que la Terre.
Je vais y venir. Pour se représenter sa taille, et puis même, mettons-le à l'échelle, prenez un ballon de foot, c'est la Terre. À 86 km de là, vous mettez une balle de golf, c'est Pluton. On parle juste du Soleil, de la Terre à Pluton. Alors du Soleil, c'est encore plus loin. Mais voilà, la Terre serait un ballon de foot à 86 km de cette balle de golf qui est Pluton. Donc très loin et toute petite planète. Alors c'était intéressant de parler de midi, le midi de Pluton. Combien de temps ça dure un petit peu? Combien de temps ça dure un jour sur Pluton? Alors la réponse un peu mathématique, elle fait sourire, puisque c'est moins 6 jours. Un jour de Pluton, c'est moins 6 jours. Pourquoi? Parce qu'elle tourne à l'envers. En presque une semaine, elle a fait un tour. Donc on a un midi qui va durer 2 jours presque. Quoi. Plusieurs heures en tout cas, pour nous. Évidemment, il fait très froid, comme le Soleil est très loin. Il fait moins 230 degrés en moyenne. Et il y a un truc marrant sur Pluton, c'est son inclinaison. Vous savez, la Terre est inclinée un petit peu sur son orbite. Ce qui fait qu'on a un phénomène de saison. Et sur Pluton, je ne sais plus de tête, l'inclinaison de la Terre, c'est 23
degrés. C'est ce qui donne les tropiques. Ouais.
Oui, voilà. Sur Pluton, c'est 57 degrés. Ce qui fait qu'elle a des moments au pôle où les jours durent plus de 10 ans. Ça peut durer des décennies. Nous, à nos pôles, on a des jours qui durent 6 mois, ou 6 mois de jour, 6 mois de nuit, ainsi de suite. Là-bas, ça peut être pendant 25 ans, il va faire nuit, puis 25 ans, il va faire jour. Bon. Voilà, ça c'est pour parler un peu d'elle. Alors, elle est où, Pluton ? Eh ben, très loin, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est si on parle en unité astronomique, la distance Terre-Soleil, elle est au maximum à 50 unités astronomiques et au minimum à 30. Elle a une orbite très elliptique. Les autres orbites, toutes les planètes, on peut imaginer qu'elles tournent rond sur une orbite ronde à quelque chose près, ça marche. Pluton, non, c'est un bel ovale. Elle va de 7 milliards de kilomètres à 4 milliards de kilomètres. Elle est même parfois plus près du Soleil que Neptune. Neptune est parfois à 4,5 milliards. Et c'est ce qui est arrivé pendant 20 ans, de 1979 là, à 1999. Elle était plus près du Soleil que Neptune.
Lors du survol de Voyager, notamment.
Oui, du coup. Oui. Et il y a même un moment, elles ont une résonance un peu Neptune et Pluton. Quand Neptune fait 3 tours, Pluton en a fait 2. Ce qui fait qu'elles sont jamais très proches. Et il y a plus souvent des moments où Pluton est plus près d'Uranus que de Neptune. Elle se chasse un peu.
Il faut savoir, ici Pluton, elle a aussi une orbite qui va au-delà de l'elliptique.
C'est très incliné par rapport au plan d'écliptique, quoi.
Et oui, c'est ce que j'allais dire juste ensuite, son inclinaison, contrairement alors les orbites des autres planètes qui sont rondes, en plus elles sont plutôt tout à plat. Alors que Pluton, elle est à 17 degrés inclinée, elle monte au-dessus du plan de l'écliptique quand elle est au plus près à 8 unités astronomiques de haut. Et quand elle est au plus loin du Soleil, elle descend en dessous à 13 unités astronomiques. Ça fait quand même un bel écart par rapport à ce plan.
C'est pour toutes ces raisons aussi qu'elle a été déclassée, hein, de toute façon, oui. en planète naine. Parce que
oui, bah,
c'est
y a plein de raisons.
Un ovni un peu.
Par oui.
Elle est trop différente.
Et pour finir sur son orbite, combien de temps dure son orbite ? Une année plutonienne, c'est 247 ans et plusieurs mois, et 9 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc depuis qu'on l'a découvert, je vais y venir juste après, à sa découverte, qui était en 1930, oui c'est ça, je regarde mes notes, en 1930, depuis ce temps, elle a même pas fait un tour, il s'est pas passé un an sur Pluton depuis qu'on l'a découvert.
Elle n'a pas fait un tour encore.
Et ouais, elle bouge très lentement. D'ailleurs, on va revenir un tout petit peu en début d'émission, parler du ciel ce soir. Où est Pluton ce soir ? Elle vient de rentrer dans le Capricorne, de sortir du Sagittaire et de rentrer dans le Capricorne. Elle est tout près de M75, un amas globulaire. Et elle va sortir du Capricorne en 2039 pour entrer dans le Verseau. Ouais. Et ensuite, elle traverse tout le Verseau. Il va lui falloir un peu plus de 20 ans pour arriver dans la Baleine, où aucune autre planète ne passe. Ce n'est pas une constellation du zodiaque, la Baleine. C'est que dommage, j'aurais bien voulu être Baleine, peut-être. en tout cas, voilà, elle rentre dans la Baleine en 2061, et puis elle retourne ensuite dans le zodiaque, dans le Taureau, en 2120. Voilà, tout ça sans passer par le Poisson, en fait. Elle passe par en dessous, par la Baleine. Voilà, c'est vraiment des temps de mouvement très long. Pendant ce temps, enfin, on a vu, là, on parlait de Saturne, on parlait de Mars. Pendant ce temps, en ces décennies-là, elles seront passées par tout le zodiaque. On les aura vues, non, enfin, peut-être pas partout, mais elles auront fait du chemin, contrairement à Pluton. Alors, comment on a découvert cette planète très éloignée ? Je vais aller assez vite là-dessus. C'était un riche américain qui, un petit peu avant les années 1900, s'est dit... Il savait qu'il y avait un problème, qu'on cherchait une planète un peu plus loin que Neptune, parce que Neptune bougeait bizarrement. Il avait des sous, il n'était pas vraiment astronome, mais il avait des sous. Il s'est dit, je construis un observatoire, prenez mes sous, voilà. Et puis il y a eu un autre américain qui a bossé là-dedans, qui s'appelle Clyde, lui c'était Percival Lowell, et Clyde Tombaugh qui bossait là-dedans, l'astronome qui est rentré en faisant le ménage, d'ailleurs. Il était agent d'entretien, et puis petit à petit... Il est monté en grade, il s'est mis à l'oculaire, enfin surtout à faire de la photo sur plaque argentique à l'époque, pour prendre des dizaines de photos et pour voir si, par hasard, une étoile bougeait quelque part. Et d'ailleurs, leur première campagne, ils n'ont rien vu parce qu'ils ont cherché que sur le zodiaque. Et comme je viens de dire, des fois, elle n'est pas tout à fait dans le zodiaque, dans l'écliptique. Et donc, elle leur est passée à côté. Et la deuxième campagne, ils ont trouvé quelque chose. Et donc, voilà, c'est en 1930 qu'ils annoncent. La découverte de cet astre qu'au début on croyait aussi gros que la Terre, et puis plus ça s'est affiné, plus on a vu que c'était tout petit, et puis qu'en plus elle tournait pas comme les autres, sur son plan incliné.
Juste pour compléter sur, sur la découverte en fait, de la planète, c'était aussi par rapport aux perturbations d'orbite de Neptune.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, on cherchait une planète suivante, ouais. Parce que l'orbite de Neptune était irrégulière. La planète 9. Enfin, ils l'ont tous appelé différemment. Percival Lowell l'appelait la planète 9. Il y a eu un concurrent qui a monté son observatoire aussi, qui l'appelait la planète X, et ainsi de suite.
C'est la seule planète découverte par les Américains.
Oui, voilà. Et alors, quand,
et c'était la même logique que quand ils avaient découvert Neptune par rapport aux perturbations d'Uranus.
Ouais. Oui.
Donc, en fait, ils savaient déjà que, voilà, ils ont...
Oui, il y avait quelque chose.
En découvrant Neptune, ils ont vu qu'il y a peut-être une autre. Ouais. On savait que déjà, voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Quoi.
Tout à fait, oui.
Et juste pour rappeler, c'est aussi un système binaire.
Ah oui, mais je vais en parler, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur Clyde Tombaugh, qui découvrait ça, et puis je crois que c'est tout. Ensuite, on a envoyé une sonde qui est passée très près. De Pluton. Ah non, j'étais en train de parler un peu de la déclassification, on fait un petit coup là-dessus, mais on va le dire vite. Moi, quand j'étais à l'école, et vous aussi, je pense qu'on apprenait que Pluton était la 9e planète de notre système. Et puis en 2006, je ne l'ai pas noté, ça, je crois que c'est ça, 2006, l'Union Astronomique Internationale s'est regroupée et a dit « Bon, on a découvert d'autres planètes comme Pluton, même une qui est plus grosse. Au début, on croyait en fait elle est plus petite, mais elle est plus lourde, c'est Eris. Il y avait Cérès aussi dans la ceinture d'astéroïdes
principales. » On avait parlé de ça dans une émission.
On en a déjà parlé. Et donc, on s'est dit « Bon, bah, on va arrêter de compter. On va dire on a 8 planètes et les autres, c'est les planètes naines. » Mais d'ailleurs, il y en a qui râlent, les Américains, parce que Pluton a été un peu déclassé, comme ils disent, mais on a quand même créé un truc pour elle, c'est pas mal. Alors que Cérès, elle a été augmentée. Au début, c'était une planète, après on s'est dit c'est un astéroïde, et quand on a créé planète naine, on l'a remonté dedans. Donc c'est pas mal.
Et même Mercure n'est pas très grand, hein, par rapport à ces astres-là.
Mais Cérès aussi, on en a déjà parlé, mais moi je suis persuadé que dans la suite, Cérès, c'est un truc qui va
être intéressant. Hein.
Ouais, qui va faire partie de l'exploration spatiale humaine. Quoi.
Ouais, tout à fait. Et ben justement, en parlant d'exploration, on a envoyé une sonde. Et alors, ce qui est marrant, c'est un peu le pourquoi on a envoyé cette sonde à la base. Il y avait déjà eu une idée d'envoyer une sonde vers Pluton, je ne sais plus quand, dans les années 2000, enfin un petit peu avant celle qui va nous concerner, New Horizons. Ça ne s'est pas fait. Il y avait eu des histoires de faire passer Voyager pas loin. Alors, il y en avait une qui ne pouvait pas, qui passait complètement à côté. Et il y en avait un autre Voyager, je ne sais plus laquelle, qui aurait pu, supposément, en traversant Uranus. Sur sa trajectoire, il fallait qu'il traverse au milieu d'Uranus pour pouvoir ensuite se rapprocher de Pluton. Donc évidemment, ça ne marche pas. Personne ne peut traverser Uranus. Donc voilà, les sondes Voyager n'y sont pas passées. Et New Horizons, parti en 2006.
Il y a eu un survol de Voyager, non ?
Oui, il me semble. Elle est passée loin, mais...
Oui, de très loin.
Ouais,
ouais.
Mais il y a quand même des photos.
Mais il y a eu une idée de la rapprocher, et en fait, non, parce que je ne sais plus pourquoi.
Il y a eu une image de Pluton.
Ouais.
Il y avait une image qui n'était pas très résolue, mais il y avait une image.
Ouais. Et bien justement, cette image... En fait, il y a eu une série de timbres qui a été édité aux États-Unis avec plusieurs... comment dire ? Chaque timbre, c'était une planète avec la photo la meilleure qu'on avait à l'époque et marqué en dessous, découvert, exploré par telle sonde. Uranus a exploré par Voyager 2, des choses comme ça. Et à la fin du carnet de timbres, il y avait Pluton qui était là, en 9e place, et marqué « pas encore exploré ». Et il y en a un, ça l'a énervé, un Américain, il s'est dit « non, mais il faut faire quelque chose ». Donc il a monté tout ce programme, New Horizons, pour lancer cette sonde en janvier 2006. Il a collé son petit timbre sur la sonde quand elle est partie, ce petit timbre marqué non exploré. Il a eu le record du timbre le plus lointain de la Terre, ou l'enveloppe la plus lointaine et la plus chère sûrement, parce que c'est 500 milliards de dollars, je crois.
Mais New Horizons. Tout dans les records, c'est de créer sa catégorie, à partir de là, on a le record.
Puis là, avant de le battre... elle est passée au plus près de New Horizons, elle est partie super vite, elle est partie à 58 000 km/h et elle a mis seulement 10 ans à rejoindre Pluton, mais à cette distance il faut 4 heures pour communiquer, donc c'était quand même compliqué, on ne pouvait pas la mettre en orbite parce que c'était compliqué de communiquer et parce qu'il aurait fallu partir avec plein de carburant, donc c'était juste un passage assez près quand même.
C'était trop cher.
Ouais, c'est ça. Et donc c'est aujourd'hui la photo la plus belle photo qu'on ait de Pluton.
C'est magnifique, hein, d'ailleurs.
Ouais, vous cherchez sur votre navigateur internet préféré, et vous verrez cette petite planète avec cette tache rouge, l'espèce de rond blanc. Voilà. D'ailleurs, une petite anecdote, quand on a cherché des noms pour nommer tout ce qui se trouve sur Pluton, personne n'avait d'idée. Ils ont laissé ça à une bande de scientifiques un peu geeks. Et du coup, t'as le Mordor, t'as le cratère Dark Vador, t'as des trucs comme ça. Tant que je parle de ça, le nom de Pluton, pareil, on cherchait un nom et c'est une petite fille qui a proposé ce nom, j'ai pas noté son nom. Elle avait 11 ans et elle a pensé à Pluton qui en grec c'est Hadès. Voilà. Bon, on a tous eu une période gothique, mais à 11 ans, penser à Hadès et tout ça. Et alors, pour finir, t'en as parlé brièvement, Pierrick, Pluton, elle n'est pas toute seule. On l'a découvert après, notamment grâce à des photos de Hubble. Elle a un petit système, il y a un petit système plutonien qui s'est développé
tard, hein,
autour.
C'était bien après. Hein.
Alors, le plus gros, le plus connu, c'est Charon, son plus gros satellite. J'ai pas beaucoup noté de choses sur Charon, à part qu'il est tellement massif. En fait, on commence à dire que ce n'est pas vraiment un satellite autour de Pluton, mais c'est plutôt un système binaire, puisque leur point d'équilibre de gravitation, il est en dehors de Pluton. Mmh. Voilà. Il y a une caractéristique intéressante sur Charon et unique dans le système solaire. On a, vous savez, la Lune qui nous présente toujours la même face, mais qui tourne, bon voilà, ça on connaît. On en a vu d'autres ailleurs. Mais Charon, elle a un truc très spécial, c'est qu'elle est en orbite stationnaire et en orbite synchrone. C'est-à-dire qu'elle présente toujours sa même face et toujours au même endroit.
Ah ouais.
Il y a un endroit sur Pluton où tu la vois, enfin plusieurs endroits, mais si on était développé partout sur Pluton, on la verrait depuis Paris, mais pas depuis Pékin.
Elle est toujours à la verticale du même endroit.
C'est ça, en orbite stationnaire.
Et sur son équateur, quoi.
Ouais. Elle tourne pas du tout. Ouais.
Et puis ensuite, on a découvert...
Elle tourne avec la planète.
Ouais, c'est ça, elle tourne à la même vitesse. En une semaine. En une semaine, un peu moins.
Comme s'il y avait une tige entre les deux.
Ouais,
ouais, exactement. Et puis pour finir, donc elles ont toutes les deux, Pluton et Charon, des copines, des petites astéroïdes, des petites lunes qui tournent autour. De la plus petite à la plus grosse, on est toujours dans le même champ lexical des enfers. On a Styx, on a Kerberos, le Cerbère, on a l'Hydre et on a Nyx. Voilà, qui sont d'autres petits corps du système plutonien dans cette distance... Que représente quoi la ceinture de Kuiper? Voilà, je cherchais le mot. Tout ce qui se passe là-bas, après Neptune. Voilà tout ce que j'avais à dire, tout ce que m'a fait trouver ces recherches après avoir vu cette histoire d'horaire plutonien.
Mm-hmm. En tout cas, pour en revenir au début de ce que tu disais, c'est vrai que ça fait sombre, quoi. Enfin, tout de suite, tu te dis, c'est loin du Soleil, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière.
Oui, d'ailleurs, pour les sondes qu'on envoie là-bas, les panneaux solaires ne suffisent pas. On est obligé d'envoyer des piles radioactives.
C'est hyper loin, et pourtant, c'est quand même éclairé. Tu vois ce que je veux dire aussi? Il y a un côté.
Ça reste le système solaire.
Ouais, voilà.
Et encore dans la sphère d'influence du Soleil.
Quand tu vois l'image de Pluton, la plus fameuse qui est sortie,
The New Horizons.
The New Horizons, c'est une image très lumineuse.
C'est vrai.
On photographie une planète tellurique, c'est flagrant, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est vrai qu'on revient à du tellurique.
Ouais. Oui. Après les gazeuses.
Jupiter,
On sent
Saturne, Uranus et Neptune sont en pleine gazeuse. Oui. Même si elles ont probablement des cœurs solides.
Et d'ailleurs, Uranus et Neptune n'ont pas eu d'image récente depuis Voyager 2. Ouais. Il n'y a que Pluton qui a...
Mais d'ailleurs, elles sont
Il y a un James Webb récemment.
James Webb, qui a imagé Uranus.
Uranus et Neptune, tu ne vois pas la surface de toute façon. Donc, les images, c'est un peu comme Jupiter. Et or, c'est des atmosphères qui sont moins intéressantes que celles de Jupiter, qui a vraiment ses spécificités de bandes qui sont quand même super particulières à observer. Mmh.
Ouais.
Uranus et Neptune, c'est.
En imagerie amateur, il y en a un petit peu. Pluton, j'en ai jamais vu. Au-delà, quoi. Sur Neptune, on peut voir un petit peu les tempêtes, quoi. Les tempêtes des pôles. C'est très subtil, mais c'est vrai que c'est la particularité de Pluton, quoi, qui a eu son image depuis Voyager.
Depuis New Horizons, et Voyager en premier. Ouais. La pause musicale, elle est un peu liée à toute cette histoire, puisque sur cette sonde New Horizons, il y a un astrophysicien qui a bossé, que tout le monde connaît, pas forcément pour son rôle d'astrophysicien, mais pour son rôle de guitariste dans le groupe Queen. Je parle de Brian May. Qui est docteur en astrophysique. En 79, il était en train de bosser sur un doctorat en astrophysique. Queen a commencé à exploser. Il a mis ça dans un classeur chez sa mère. Queen a vécu. Et en 2000 et quelques, il est retourné chez sa mère prendre son truc. Il a repris sa thèse. Et il a passé son doctorat au début des années 2000. Et il a bossé sur New Horizons. Je n'ai pas trouvé ce qu'il avait fait précisément dans cette mission. Mais en plus de ça, il a fait une chanson. Qu'il a sorti en solo, sa première chanson en solo depuis 20 ans. New Horizons Ultimatul Mix. Parce qu'Ultimatul, je crois, c'est la L'astéroïde que New Horizons allait voir après, non? C'est ça, on en avait parlé, je crois, une fois.
Oui, après, il y a eu d'autres choses, ouais.
Une fois que New Horizons avait passé Pluton, elle a continué.
Ultimatul, oui.
Et
oui.
Je crois que c'est l'objet le plus loin qu'on ait survolé.
De cigare bizarre, ouais.
Donc voilà, Brian May, New Horizons et Ultimatul Mix. Et on se retrouve juste après dans l'étoile polaire.
Revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed.
Dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors après ce petit morceau de Brian May, qui donc on peut être guitariste et aimer l'astronomie, et même être astrophysicien quelque part.
Voilà. Jouer avec Queen.
Queen. On va poursuivre cette émission avec la chronique spatiale de Pierrick et donc cette suite de cette saga, hein, on peut appeler ça une saga d'archéoastronomie. Et cette fois, on part en Amérique du Nord.
Et ouais, je vais reprendre l'archéoastronomie. Donc l'archéoastronomie, je le redis en deux mots, c'est l'étude de l'archéologie en lien avec l'astronomie. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions avant. Et là, je vais parler d'Amérique du Nord et des Indiens qui sont à cheval aux USA ou au Canada, Amérique du Nord. Donc là, je parle de civilisation avancée, entre guillemets. C'est un terme qui est un peu bizarre, que j'aime pas trop. Mais en fait, avancée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils faisaient du commerce, qu'ils avaient des villes, qu'ils avaient des routes, qu'ils faisaient des échanges.
Payaient des impôts.
Peut-être, ouais. En tout cas, là, on est dans le Mississippi. Il y a la civilisation Adena qui a construit des buttes, des mounds, en anglais, là, des mounds, une espèce de tumulus, des collines de terre, qui sont assez remarquables et qui sont assez grosses. La plus grosse fait 19 mètres de haut et 73 mètres de diamètre.
Ça fait un peu partie de ce truc des pyramides qu'on retrouve jusqu'en Amérique du Sud, en fait.
Ouais.
Sur tout le continent, en fait. Et exactement. Il y avait ça chez les Amérindiens.
Ouais. Ouais. Il y avait des pyramides, des tumulus, donc en terre, en pierre, en sable, enfin, ce qu'ils avaient sur place, sûrement. Et donc, il y a différentes formes de ces tumulus, ces collines. Il y en a pour des sépultures, et il y en a pour des effigies. Qui ont des formes animales, de serpents, d'oiseaux, des choses assez réalistes au niveau représentatif, mais toujours stylisées, avec des belles formes, des droites, un peu géométriques, et des trucs très beaux et qui sont visibles un peu du ciel, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu le continent Amérique du Nord et aussi Amérique du Sud, et avec les lignes de Nazca, où il y a des choses, j'y reviendrai sûrement dans notre émission, mais c'est pas là le thème. Mais en tout cas, ils ont représenté des formes qu'on voit du ciel et qui sont des serpents, des oiseaux, etc. Donc ils ont fait beaucoup de statuettes aussi en forme d'animal, des choses très fines, très belles, très stylisées, vraiment avec des lignes épurées, des choses très belles. Franchement, je vous invite à aller voir. Civilisation Adena, puis Hopewell, et aussi Caddo. Donc ça, c'est vraiment des civilisations amérindiennes qu'on ne connaît pas. Hein. C'est des choses... dans mon imaginaire, les Amérindiens, c'est des Indiens, et vu dans leur tipi, c'est pas vraiment des civilisations. Mais en fait, si, il y avait quand même des choses très construites, et des choses avancées qui étaient là-bas. Et juste une petite parenthèse, la civilisation Caddo, c'est dans le fleuve Mississippi, là autour du fleuve Mississippi. Donc les premiers à l'explorer, c'est les Espagnols en 1500, puis les Français, qui avaient suite à des guerres avec l'Angleterre, qui avaient récupéré cette bande autour du fleuve Mississippi, là. Notamment, il y a la ville, la Nouvelle-Orléans, toutes ces villes un peu au nom français, là. Et cette civilisation... au début, ils étaient a priori 200 000 en 1500, puis 8 000 en 1700, puis un peu plus de 3 000 en 90. Donc en fait, voilà, il y a eu vraiment des espèces de les maladies, plein de choses que les colons ont ramenées et qui ont fait qu'on décimait cette population. Mais quand même, ils sont toujours là, c'est toujours un petit peuple qui est présent, qui a une civilisation encore existante. Et eux, c'est pareil, ils ont construit des tumulus, des constructions qui sont toujours donc alignées au solstice, avec des points remarquables, qui indiquent les solstices, qui indiquent les équinoxes, qui indiquent les levées de lune, qui indiquent plusieurs choses comme ça, toujours dans l'idée d'avoir un espèce de calendrier pour marquer le temps, pour s'organiser, pour les cultures, pour les rencontres, avoir une idée de temporalité, d'organisation, comme une montre, comme on a nous, un calendrier, etc. Et là-dedans, il y a le terre-plein de Newark. Donc ça, c'est un énorme octogone, donc 8 faces, qui est relié à un cercle. L'ensemble fait 18 hectares, donc c'est assez remarquable. C'est vraiment très gros. Et pour repérer les axes, il y avait un observateur central, qui était sur un promontoire, donc souvent un tumulus, et des piliers plantés en cercle autour de ce promontoire qui permettaient de repérer les levées, les couchers de certaines étoiles, de la lune, etc. Donc voilà, ils faisaient encore de l'astronomie à cette époque. Donc là, on est plutôt en 1500 avant Jésus-Christ. Enfin, c'est difficile à dater, mais a priori, c'est 1500 avant Jésus-Christ. Et si je remonte un peu plus au nord, on parle aussi des medicine wheels, donc les roues de médecine en français. Ça, c'est un peu plus frontière Canada-USA. Les Indiens Navajos ont construit ces espèces de roues de médecine, pareil, toujours alignées au solstice, alignées avec certaines étoiles, notamment les Pléiades, notamment Aldébaran, des étoiles phares hein, qu'on connaît bien dans l'hémisphère nord et qui marquent le début des travaux agricoles, etc. C'était des paysans en fait, ils avaient une organisation de semailles. C'est pas les Indiens qui vivent juste en chassant le bison, genre Yakari. En fait, c'est voilà, on a ça dans notre tête, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc et tous ces monuments se comptent par milliers aux États-Unis et au Canada. Il y en a vraiment beaucoup de partout dans leur organisation sociétale. Ils avaient des espèces de calendriers un peu de partout.
Donc, oui, voilà. Toujours comme on disait l'autre fois, si, tant qu'à avoir l'heure. Autant que tout le monde l'est.
Voilà.
Tant que si tout le monde est là à l'avoir, t'as pas bien intérêt. Ouais.
Et il y avait sûrement aussi un rôle culte associé à tout ça.
Oui, bien sûr, tous les rituels. Ouais.
Et ces medicine wheels, ça fait penser un peu au mandala, un peu ce symbole universel de la roue de vélo, quoi. Dans le symbolisme, on peut appeler ça. Enfin, il y en a qui disent que c'est le cercle sans fin de la vie. Il n'y a ni commencement ni fin. Une sorte de choses qui tournent sans cesse. Donc voilà, il y a plusieurs choses liées à ça. Et je voudrais parler aussi d'un calendrier qui a été trouvé sur une butte, sur Farada Butte. Donc pour la petite histoire, en 1977, Anna Saffer, une étudiante en art préhistorique, a décidé de grimper Farada Butte, une butte comme on imagine. Là, on est plutôt dans le Colorado, dans le désert, donc des buttes de cailloux un peu circulaires. Là, on voit tous ces images dans le désert d'espèces de promontoires rocheux aux États-Unis qui décident de monter là-haut et qui trouvent des pierres, des plaques de pierre inclinées sur une paroi qui font 2-3 mètres de hauteur et qui sont alignées les unes contre les autres en laissant passer au milieu une espèce de fente de lumière. Comme un faisceau lumineux qui arrive à passer entre ces pierres et qui dessine un trait sur la falaise en face où la lumière est projetée.
C'est Indiana Jones ton truc.
Un peu, ouais. Et cette femme qui trouve ça, comme c'était midi quand elle grimpe ce caillou, elle regarde où la lumière apparaît et elle voit cette ligne de lumière. Et elle voit que sur cette ligne de lumière est dessinée une spirale. C'était midi et la ligne de lumière est parfaitement perpendiculaire à la spirale qui est dessinée. Elle se dit, bah là, il y a quand même quelque chose. Et du coup, elle continue continue d'explorer cette chose et elle voit qu'il y a plein de spirales dessinées autour de ces rayons de lumière et qui indiquent les solstices, qui indiquent les équinoxes. Il y a une spirale dessinée et par exemple la raie de lumière est pile au centre au moment de l'équinoxe. Ou alors elle est au bord de la spirale au moment des solstices. Beaucoup de choses comme ça et aussi notamment à la pleine lune. Lorsque la pleine lune éclaire cette fente entre deux rochers, elle éclaire aussi des spirales qui sont parfaitement alignées et qui aussi indiquent les spirales, elles font 19 tours. De circulaire, 19 tours, ce qui correspond au cycle lunaire, en fait, je sais pas comment dire, une espèce d'année lunaire, que tous les 19 ans, la Lune, elle se retrouve exactement à la même place quand on la observe dans l'univers. Il faut savoir que la Lune...
Oui, dans la même constellation, proche de la même étoile qu'il y a 19 ans.
Ouais. L'alignement, ouais.
L'alignement est exactement le même tous les 19 ans.
Ouais.
En fait, tous les 19 ans, dans cette période, les éclipses lunaires ont lieu à peu près à la même date, à la même date, et tout ça se répète. Mais c'est des cycles très longs à l'échelle humaine. 19 ans, c'est quand même long. Et du coup, on a des... Et là, ils avaient quand même réussi à noter ces cycles lunaires, parce que les fentes qui, à la pleine lune qui éclairent ces spirales sont parfaitement proportionnées et mises soit perpendiculaires à la spirale, soit sur le côté, avec des 19 nœuds de spirale.
Okay.
En prévision des éclipses, notamment.
Sûrement en prévision des éclipses. En tout cas, pour en tout cas, ils avaient observé ça et ils l'avaient noté. Donc c'est quand même fort.
Ouais.
Et en astrologie, eh ben tous ces cycles de 19 ans, de 0, 19, 38, 57, 76, 95, c'est un peu des. Chacun de nous, en fait, a son nœud lunaire. Se répète cette tous les 19 ans, on a notre propre cycle lunaire qui revient. Donc voilà, il y a certains astrologues qui se basent un peu là-dessus pour faire des prédictions, pour imaginer des changements et dans notre vie personnelle, voir un peu le sens de la vie. Peut-être que tous les 19 ans, il y a des cycles où on a envie d'autre chose, notre vie change. Voilà. Donc voilà, et aussi l'ombre de la lune qui se déplace dans la hauteur du ciel aussi. Elle passe de 18 degrés à 28 degrés. Et ça, c'est pareil, c'était noté avec ces histoires de spirales qui étaient gravées dans la pierre en face. Voilà, je voulais vous dire deux mots sur ces spirales et ces Amérindiens qui aussi observaient.
Qui était déjà bien féru d'astronomie.
Ouais, ouais. Quand même.
Parce que on retrouve quand même toujours ces thématiques, comme tu dis, agraires de calendrier. Bon, enfin, ouais. C'est quand même repérer ces grandes dates que sont les équinoxes et les solstices et qui le calendrier des saisons, qui quand même a réglé notre vie et continue à le régler depuis un certain temps déjà.
Ouais. Et en tout cas, ce que je remarque, c'est que selon les continents, selon les époques, il y a toujours un système de mesure du temps qui passe. Ça, selon les civilisations, il y a toujours eu ça, calendrier, d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Calendrier,
ouais.
Que ce soit la lune, le soleil, etc. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et ben, merci, Pierrick.
Plaisir.
Ouais.
On va conclure cette émission avec toi, Rémi, qui va cette fois nous parler de tes petits travaux pratiques du moment.
Voilà. À défaut d'être envoyé spécial...
À l'autre bout du monde.
On n'a pas le crédit pour t'envoyer à chaque fois à l'autre bout du monde. T'imagines bien.
Ouais. Non, j'avais envie de parler avec vous des jumelles, de l'observation aux jumelles, comme on en parlait tout à l'heure pour l'événement à Marignac, du coup d'inviter tout le monde à ramener ses jumelles ou son instrument d'observation fétiche. Moi-même, j'ai acheté des jumelles l'autre fois. Et c'est sûr que ça change des télescopes, des lunettes, des oculaires, des montures équatoriales.
C'est beaucoup plus léger de manipulation,
tout
ça c'est sûr.
Tout un toit, ouais.
Ça grossit beaucoup moins aussi.
Ça grossit beaucoup moins, du coup ça donne accès à des objets vachement plus étendus, vachement plus diffus.
C'est ça, on peut dire d'entrée de match que quand même il y a un champ qui est plus grand. Enfin, on
y a un champ
voit
qui
une zone assez... plus grande du ciel aux jumelles qu'au télescope.
Il y a un champ qui est assez grand, j'y reviendrai après, puis... Voilà, il y a un certain nombre d'avantages quand même à l'observation jumelle. C'est-à-dire que effectivement, t'en parlais, la légèreté, ça permet d'emmener en voyage quand même notre instrument. On peut l'avoir dans la bagnole, dans le sac à dos, en rando.
En rando, ouais.
Avec un trépied simple. Il y a le prix aussi. Quand même, on a une entrée de gamme dans les jumelles là qui est assez abordable. C'est-à-dire que pour 120-150 euros d'occasion, on trouve une paire de jumelles qui peut faire un mix à la fois pour de l'observation terrestre, pour de la faune, de la flore, du paysage et de l'astro. Quoi. Il y a un temps d'installation, une facilité d'installation. Et puis il y a aussi une chose qui m'a marqué par-dessus tout, parce que la première fois que je l'ai observé, c'était la Lune. Et du coup, c'est le sens de visualisation.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on n'est pas inversé ni au
on
bas, ni gauche-droite.
Mmh.
Et du coup, les jumelles, ça nous offre une vision directe, dans le même sens que ce qu'on a à l'œil nu. Du coup, voilà, que l'image soit déjà redressée de base. Enfin, pour nous, on dit redressée, mais...
En fait, elle n'est juste pas inversée.
Elle est juste normale. Ouais. Donc, voilà, il ouais, y a tout un tas d'avantages que je trouve assez notables. Après, pour rentrer un petit peu dans les caractéristiques techniques, bon, c'est assez vaste, hein, les jumelles. Forcément, il y a tous les prix, il y a toutes les qualités. Notamment des qualités que je dirais optiques, comme on retrouve sur les lunettes astronomiques, tout ce qui va toucher aux lentilles, au traitement des lentilles, au nombre de lentilles. On avait parlé dans une autre émission que quand la lumière elle traverse une lentille, elle déforme les raies visibles de rouge vert bleu. Et on a vu qu'avec une lentille astronomique, ce qu'on appelle un triplet, eh ben, on a trois lentilles qui vont agir sur les trois raies de lumière pour nous le ramener au point focal, pour avoir une image nette. C'est-à-dire quand on regarde un horizon, une montagne, avec une jumelle ou avec une lunette de qualité d'entrée de gamme, mettons, eh ben, on va avoir un petit liseré violet. On va voir que l'horizon, l'extrémité n'est pas nette, quoi.
Donc, concrètement, on a une dispersion de la lumière à travers le vert, qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Et du coup, l'image rouge et l'image bleue et l'image jaune ne sont pas exactement au même endroit.
Voilà.
Donc là, on peut corriger ça avec un triplet.
L'image sera la même, mais les extrémités seront différentes. Et donc ça, on s'en aperçoit surtout quand on observe la Lune. Ouais. C'est-à-dire que sur le contour de la Lune, on va voir que c'est tremblotant, c'est
grisé,
c'est violet. Ouais, c'est...
Ah oui, moi je vois bien avec mes jumelles, j'ai mon souvenir du liseré jaune en haut et bleu en bas. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec une paire de jumelles d'entrée de gamme qui est accessible à tout le monde, et que je pense que tout le monde a déjà manipulé des jumelles, ça qui est intéressant en rapport avec ce qu'on fait avec l'observation astronomique. On a accès à beaucoup de choses dans le ciel nocturne dont on n'a pas besoin d'avoir une qualité vraiment
optimale. C'est ça, j'allais dire, même sur la Lune, si tu as un peu un liseré en haut, un liseré en bas, ça ne t'empêche pas d'observer les cratères et tout ça.
Enfin, c'est,
Donc même avec une paire de jumelles, même pas forcément spécialement adaptées à l'astronomie, en fait, déjà, ben, on voit mieux qu'avec notre œil.
Ah, mais c'est sûr.
De là, il se passe déjà quelque chose.
Ça vaut toujours le coup de regarder le ciel, peu importe avec quoi.
Voilà, après, on a des jumelles qui se comportent dans le fond du sac à dos, par exemple des 750.
750, des c'est bien.
750, c'est pas mal. Et ça reste
très lumineux quand même.
C'est lumineux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus lumineux finalement. Disons que ça offre un grossissement. On rappelle sur les jumelles, 7.50, ça veut dire qu'on a un grossissement de x7 et puis on a une ouverture de 50 mm.
C'est le diamètre
des lentilles.
Des lentilles.
Voilà. Du coup, ce qu'on retrouve dans les jumelles de petit diamètre, dans les plus lumineux, on a quand même les 10-42 qui sont la majeure partie du temps les plus lumineuses et les plus qualitatives. On a les 8-32 aussi en plus petit gabarit. Et après, ce qui va nous intéresser en astronomie généralement, c'est ce qui va être les 20 par 81 ou les 25 par 100. Ça commence à être des instruments qui pèsent entre 2 à 3 kilos.
Et oui, c'est plus des jumelles qu'on porte à bout de bras.
Oui, voilà. C'est une observation différente.
Il faut un trépied.
C'est-à-dire qu'avec des jumelles à peu de grossissement, on peut les tenir. Le mieux, c'est d'être assis ou alors d'avoir un support pour les coudes, pour avoir le moins de vibrations possible.
Ou allongé aussi.
Allongé,
moi, j'aime bien allonger en posant les coudes sur le sol et les jumelles sur les yeux.
Tout à fait, ouais, on peut s'inventer tout un tas de supports. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de vibrations possible. Je rappelle notamment que pour faire la mise au point sur les jumelles, on commence par l'œil droit. C'est-à-dire que l'oculaire se tourne sur lui-même. On fait la mise au point sur l'œil droit en fermant l'œil gauche. Et après, on bouge avec la molette centrale tout le corps de la jumelle pour faire la mise au point sur l'œil gauche. Soit dit en passant, du coup, avec des jumelles de gros diamètre et de gros poids, il y a souvent un support avec un pack Kodak, avec ce qu'on peut adapter sur un trépied, quoi. Un trépied simple ou carrément une monture astronomique.
Oui, c'est ça. Voilà. Au mieux, il faut un trépied. Enfin, au pire, et au mieux, une monture. Et j'ai vu, tu as sûrement déjà vu ça, Rémi, ces supports pour jumelles, pour observer allongé dans un transat ou de préférence dans un transat. Et les jumelles sont suspendues à une grande barre.
Une sorte de portique.
Voilà, avec un contrepoids de l'autre côté. Et du coup, t'es allongé, elles sont un peu suspendues devant toi et tu bouges comme ça.
Ouais, c'est hyper
suspendues par le dessus. Et du coup, facilement fabricable.
Voilà, du coup, sur... Au-delà du support, du trépied, de la monture, on peut aussi rajouter un support laser, un viseur point rouge, voire même un chercheur comme on utilise sur les télescopes. Quoi. Bon. Bien qu'avec les jumelles, on a un grossissement qui soit relativement équivalent. C'est assez intéressant pour ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir une précision dans l'observation sur des objets relativement étendus. On peut aussi retracer toutes les constellations. C'est-à-dire que si on cible sur une carte une constellation qui nous intéresse, et ben là, plus facilement qu'avec un télescope avec un grossissement de 100 fois, mettons, on va pouvoir vraiment cibler toutes les étoiles de la constellation, se balader dans tout l'espace, quoi. Donc par exemple, une jumelle de 20 par 80, qui est un petit peu le standard de base en astronomie, on a entre 3 et 4 degrés d'ouverture selon les modèles, selon les qualités.
Ça fait un tout petit peu plus que la Lune, pour donner une idée, un peu plus que la Lune.
Ben, la Lune, c'est un demi-degré.
Ouais, un demi-degré, oui.
Par exemple, pour exemple, Andromède, qui est censé faire au moins 5 fois la Lune, on a 3 degrés. Donc, avec un télescope, d'avoir la galaxie d'Andromède en plein champ, en entier, c'est difficile, ouais, quoi. Soit avec un oculaire de 40 mm, mais là, enfin, on commence à déformer vraiment l'image. Voilà, il y a l'amas ouvert des Pléiades qui fait 2 degrés, la nébuleuse d'Orion
voilà, double amas de Persée aussi.
Double amas de Persée, pareil, qui est très 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 grand. La rose de Caroline, pardon, qui fait quasiment à peu près le gabarit de la Lune, un demi-degré. On a l'amas d'Hercule.
Oui, l'amas d'Hercule,
On peut le reconnaître.
On le résout un petit peu.
On le résout, disons qu'on voit que ce n'est pas une étoile. Et par contre, on l'apprécie au milieu de sa constellation. Quoi. C'est ça qui est intéressant avec les jumelles. C'est qu'on a vraiment... on peut contraster les objets qu'on va observer.
Pour cibler, c'est bien, avant de passer au télescope, je trouve que c'est une bonne étape de repérage.
Ouais.
De voir où on est, ça c'est là...
Ça permet d'explorer le ciel aussi, de se dire, bon, là, je regarde et hop, je vois une tache floue. Je prends le télescope et je la résous et je vois ce que c'est.
Voilà, et c'est vachement intéressant. Et on en avait parlé l'autre fois dans une émission par rapport à nos souvenirs de Marignac 2022, d'avoir observé avec Guillaume et ses jumelles le lever de Pléiade à l'horizon, c'est-à-dire de superposer un premier plan et un astre qui se lève à l'horizon. On a commencé par les Pléiades et la Lune, pour finir par le Soleil au petit matin, c'était vraiment très appréciable. Donc, et puis même Jupiter et ses satellites, on les résout aux jumelles. En petit, c'est très appréciable. On peut aussi vraiment distinguer les anneaux de Saturne. Voilà. Et puis dans l'hémisphère sud, on peut parler du nuage de Magellan, de la nébuleuse de la Carène. Il y a tout un tas d'objets qui sont vraiment appréciables aux jumelles. Et ça reste vraiment un instrument intéressant. Et dans la gamme des jumelles qu'on utilise, qui sont vachement moins répandues, il y a ce qu'on appelle les yeux de hibou. Donc, par exemple, il me semble, deux gammes des yeux de hibou. Moi, j'ai en tête les 2 par 42. C'est-à-dire qu'on a un grossissement de 2 fois, donc qui est vraiment rien, par rapport à une ouverture de 42 mm. Quoi. Donc on est quasiment à F2 par rapport à un télescope dans le rapport focal-ouverture.
Une énorme ouverture. Quoi.
Voilà. Donc en fait, et ça se présente comme des grosses lunettes, comme si on avait une énorme myopie. Quoi. Et là, on pointe les yeux au ciel, et là, on voit juste apparaître des choses. Quoi. Et ça grossit à peine, mais c'est surtout que ça collecte de la lumière. C'est vachement intéressant pour ça.
Ça doit être incroyable.
Voilà, du coup, on vous invite à ramener vos jumelles et venir observer avec nous à Marignac. Belles observations à vous.
Merci Rémi.
Merci
bonne
à
journée
toi.
Sur RDWA.
On vous souhaite une bonne semaine.
À bientôt.
Salut.